Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Ces dernières années ont été particulièrement difficiles pour l'Amérique latine. Faible croissance économique, insatisfaction grandissante des populations, gouvernance pas toujours efficace. C'est dans ce contexte que le Covid-19 sévit sur le continent, laissant craindre une catastrophe sanitaire, politique et sociale. 55% de la population latino-américaine travaille dans le secteur informel avec les conséquences que l'on peut aisément imaginer dans les conditions actuelles de crise. Comme partout ailleurs dans le monde, la capacité de l'Amérique latine à enrayer la pandémie dépendra de la qualité de son leadership, de la préparation et de l'efficacité de son système de santé, ainsi que de la stabilité de sa population. Autant de critères qui sont plutôt variables à l'échelle du continent. Trois pays sont jugés parmi les plus inquiétants, le Venezuela, le Mexique et le Brésil, suivis de l'Amérique centrale, Honduras, Guatemala, Salvador, qui figurent parmi les pays les plus pauvres de toute la région. 60% de la population du Guatemala et du Honduras vit dans la pauvreté. C'est parmi elles que l'on trouve la plus forte proportion de candidats à l'immigration aux États-Unis. Au nord, le président Trump qui se débat lui aussi avec la gestion de la crise. Les États-Unis enregistrent plus de la moitié des décès coronavirus pour une population qui ne représente que 5% de la population mondiale. Trump a décidé de stopper toute immigration. Tôt ou tard, une aide à l'Amérique latine va s'imposer. Le Covid-19 n'est pas seulement une menace sanitaire pour l'Amérique latine, mais également un possible déclencheur d'alternance dans les dynamiques politiques de la région. Regard avec nos invités par téléphone pour cause de confinement. Jeannette Abel, politologue, chercheur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
L'Amérique latine va connaître cette année la pire récession de son histoire avec une chute attendue de 5,3% de son PIB selon l'ONU. Qu'est-ce que l'on peut dire de la façon dont les dirigeants latino-américains se comportent depuis le début de la pandémie, laquelle a démarré en Équateur, qui a été le premier touché, avec particulièrement la ville de Guayaquil, ce port de la côte pacifique, 2,7 millions d'habitants, une situation qui a tourné à l'horreur. Jeannette Abel.
Oui, la situation générale est très grave à mon avis parce qu'elle intervient dans un contexte où les systèmes de santé sont extrêmement délabrés dans la plupart des pays. Elle intervient dans un contexte où dans tous ces pays, l'économie informelle est majoritaire, autrement dit plus de 50% de la population économiquement active est sans protection sociale, n'a pas de droit au chômage. Et dernier élément, parmi les plus importants, des centaines de millions de gens vivent dans des bidonvilles, dans des conditions où les mesures barrières, le confinement, ne peuvent pas être appliquées. Et par conséquent, la contagion est en train de se développer. On a déjà des chiffres, mais les chiffres qu'on a sont extrêmement limités et je pense pas tellement fiable pour la bonne raison qu'ils ne comprennent pas l'intégralité des contaminations, l'intégralité des décès, et le pire est probablement à venir. Alors la densité de l'habitat elle-même provoque des difficultés énormes dans de très nombreux bidonvilles où habitat il n'y a pas d'eau, ou en tous les cas pas d'électricité. Donc les mesures barrières elles-mêmes ne peuvent pas être efficaces. Et j'ajoute que dans de nombreux pays maintenant, on a une situation où dans ces secteurs, mais ça concerne, je le répète, des dizaines de millions, 50 millions semble-t-il environ au Brésil, de gens doivent choisir entre, on a dit Caribes des Silas, c'est-à-dire soit ne pas travailler et ne pas avoir de quoi manger, soit sortir et être contaminé. Et on a déjà eu des émeutes de gens, notamment au Pérou, qui ont essayé de quitter la capitale pour retourner plutôt dans les campagnes, parce que dans les bidonvilles et dans les villes, ils ne peuvent plus se nourrir.
Alors, des mouvements de population, il y en a évidemment beaucoup. Et on pense également à la situation des Vénézuéliens qui ont quitté le Venezuela ces derniers mois, ces dernières années, pour aller se réfugier en Colombie et qui reviennent. Christophe Ventura, le pire est à venir. Il est vrai que le pic du coronavirus n'a pas été atteint en Amérique latine. Il y a un certain décalage par rapport au reste du monde. Le pic est annoncé pour la mi-mai, voire début juin.
Oui, tout à fait. Alors, à l'heure où on se parle, le bilan est de plus de 100 000 personnes frappées par ce virus, en tout cas de personnes comptabilisées. C'est aussi un problème dans le problème en Amérique latine. C'est la difficulté à savoir exactement finalement le nombre de gens malades. On peut identifier un nombre de gens comptabilisés, mais certainement, il y en a-t-il beaucoup plus qu'ils ne le sont pas. On parle de plus de 100 000 cas, plus de 5 200 morts aujourd'hui, mais comme vous l'avez parfaitement dit, le plus dur est à venir. Je sais que, par exemple, le président cubain a annoncé que les 3 prochaines semaines allaient être les plus difficiles pour le pays et plus largement l'Amérique latine. Ce qu'on remarque sur la situation générale, il y a plusieurs choses, pour compléter un peu ce que disait Jeannette Abel, le fait que les réactions des gouvernements est en ordre dispersé en Amérique latine. C'est frappant de voir qu'il n'y a quasiment aucune coordination ou même point de contact entre les gouvernements de la région qui chacun applique des stratégies qui tâtonnent, plus ou moins différentes, parfois assez divergentes. Si on met d'un côté les Cubains, les Vénézuéliens et de l'autre les Brésiliens ou les Chiliens, etc. Donc ce qu'il y a en Amérique latine, c'est aussi la faiblesse de la coordination des gouvernements et des États à traiter minimalement, collégialement, cette arrivée de la pandémie qui peut, et je reprends là les mots de la CEPAL, la Commission économique pour le développement de l'Amérique latine, qui peut faire que l'Amérique latine est la région qui va être en position la plus fragile dans le monde entier pour absorber cette épidémie. Parce qu'évidemment, il y a l'épidémie elle-même, mais il y a le contexte dans lequel elle arrive. Le contexte, c'est une région qui est déjà frappée par une autre épidémie très grave, qui est celle de la dengue, de la dengue, qui cette année est la plus forte qu'on a jamais eue en Amérique latine. Et puis, on a une région qui cumule sur le plan sanitaire, médical, à la fois beaucoup de maladies des pays pauvres et puis en même temps celle des pays riches. Et ça, c'est une caractéristique aussi de l'Amérique latine. Le corona arrive donc avec une épidémie de dengue, mais aussi des maladies de diabète cardiovasculaire, d'obésité aussi, je pense au Mexique par exemple, où tout ça se cumule et peut donner des facteurs de morbidité et de létalité très très forts en Amérique latine lorsqu'on conjugue ça avec la faiblesse des systèmes sanitaires, la pauvreté des dispositifs médicaux, etc., etc. dans beaucoup de pays, on l'a dit. Et c'est ça qui peut finalement faire un cocktail assez terrible pour l'Amérique latine dans les semaines qui viennent.
Alors, faiblesse des systèmes sanitaires, c'est assez général à l'Amérique latine, vous l'avez dit. Il y a un pays qui est particulièrement intéressant, et je me tourne vers vous, Jeannette Abel, c'est Cuba, qui a aujourd'hui plusieurs avantages sur d'autres États. Hein, gratuité des services de santé, le plus fort taux de docteurs au monde. Bon, il est vrai aussi que la crise arrive à un moment difficile pour l'île, avec des sanctions américaine maintenue, voire intensifiée. Arrêtons-nous quelques instants donc sur Cuba, qui met à profit son réseau pour aider des dizaines de pays dépassés par le Covid. On voit Paris avoir convenu avec la Havane fin mars d'un accord pour l'envoi de personnel en Martinique et en Guadeloupe. Une quarantaine de nations qui a demandé de l'aide à la Havane. Et la Havane qui également prête une assistance à ses alliés traditionnels qui en ont bien besoin, le Nicaragua et le Venezuela. Un commentaire, Jeannette Abel.
Oui, alors c'est effectivement très intéressant parce que, première remarque, tout d'abord, Cuba est dans une situation extrêmement difficile en premier lieu, et vraiment en premier lieu, à cause des sanctions qui sont mises en application par l'administration de Trump et qui ont des conséquences réellement très graves, y compris pour l'alimentation des Cubains et y compris même pour la santé, parce que le gouvernement avait commandé par exemple des respirateurs et il se trouve que ça passait par une entreprise américaine. Ces respirateurs ont été bloqués. C'est vous dire quand même que les pressions sont des pressions considérables malgré les demandes de suspension, de moratoire sur les sanctions pendant l'épidémie, demandes qui ont été approuvées par l'ONU, par Michel Bachelet, etc. Donc, première remarque. Deuxième remarque, le 21 avril, il y avait à Cuba 1200 contaminés et 38 morts, chiffres officiels en tous les cas. Alors, ce qui est intéressant à Cuba même, c'est la politique de santé, la stratégie qu'on est en train d'appliquer. Parce que là, vous avez un État fort et d'autre part, cet État met en application des politiques qui sont très contraignantes, mais qui sont en tous les cas probablement inspirés de ce qui se fait au Vietnam, qui a des succès face à cette épidémie extrêmement grands. On met à Cuba en quarantaine des régions différentes. Ce sont des quarantaines intermittentes et avec 3 niveaux différents de confinement. C'est-à-dire que le confinement va être plus ou moins important selon les régions et d'autre part ne va pas forcément être maintenu de manière continue. Si bien qu'aujourd'hui, bon, on a environ 1200 morts, probablement aujourd'hui un tout petit peu plus, 3400 hospitalisés, une quarantaine de décès et plus de 300 personnes qui sont sorties guéries. Évidemment, tout ça est appliqué avec l'aide si j'ose dire, des comités de défense de la Révolution, qui sont des structures de base dont je signale qu'elles fonctionnent dans les quartiers, qu'elles ont été très contestées dans le passé, parce qu'on considère qu'elles pouvaient avoir une certaine ambiguïté dans la recherche des renseignements sur ses habitants. Mais en tous les cas, actuellement, ce sont notamment à partir de ces comités de défense que le contrôle se fait sur les habitants, ce qui permet d'identifier à la fois ceux qui sont contaminés, ceux qu'il faut isoler, ceux qu'il faut confiner, ceux qui peuvent sortir, etc. Donc, on a une anticipation avec un système de santé reconnu qui est quand même très efficace dans l'ensemble. Il ne donne pas lieu à des catastrophes, une des pires peut-être, c'est celle qu'on a vue en Équateur, où la responsabilité politique du pouvoir est totalement engagée. Un mot juste, hein, c'est l'aide chinoise et russe en matériel pour lutter contre la pandémie, très importante à Cuba, mais également, ce qu'on sait peut-être moins, au Venezuela aussi, mais également au Mexique, en Argentine. Et vous remarquerez qu'il s'agit de gouvernements qui ont des politiques générales particulières. Et donc, à Cuba, évidemment, c'est très important parce que le pays ne dispose pas d'un certain nombre de moyens, notamment les respirateurs, de matériel, etc., pour faire face à la pandémie.
Alors, il est vrai que le retrait des États-Unis en Amérique latine offre un véritable boulevard à la Chine et à la Russie, comme vient de le dire Jeannette Abel. On poursuit avec les amis de Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, Christophe Ventura, avec cette question que la pandémie fragilise de nombreux gouvernements dans le monde, mais qu'elle pourrait offrir une occasion en or à Nicolas Maduro, le président contesté du Venezuela.
C'est vrai qu'au Venezuela, aujourd'hui, la situation intrigue pas mal les observateurs, parce que si on s'en réfère là aussi aux chiffres officiels du gouvernement et ceux de l'Organisation mondiale de la santé aussi, l'épidémie aujourd'hui au Venezuela est quand même assez limitée, elle est même contenue. On a au Venezuela un des pays les moins touchés, en fait, hein, par rapport à sa population. On est aujourd'hui à peu près à 285 cas identifiés et 10 morts. Là aussi, avec toutes les précautions d'usage, et je rappelle celle qui est d'être capable de comptabiliser réellement le nombre de gens touchés, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, ces chiffres ne sont pas contestés et aujourd'hui, donc, au Venezuela, l'épidémie est assez contenue. Alors, il y a certainement plusieurs causes à cela. Il y a d'abord le fait que ce qui joue pour le Venezuela, c'est une démographie aussi où la majorité de la population est jeune. Disons que la part des seniors est assez faible dans la démographie vénézuélienne. D'ailleurs, c'est aussi le cas de la plupart des pays latino-américains, ce qui est un facteur qui peut jouer peut-être pour atténuer un petit peu ce que je disais précédemment sur les facteurs qui peuvent donner un cocktail assez inflammable, c'est la jeunesse de la population latino-américaine. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ce qui joue aussi, c'est que le Venezuela, du fait des mesures unilatérales restrictives imposées en particulier par les États-Unis depuis maintenant plusieurs années en réalité, et qui ne font que s'accroître et encore qui s'accélèrent actuellement sous la pandémie, on en parlera peut-être, eh bien le pays finalement est relativement plus déconnecté que les autres aux grands flux de marchandises, de transports, etc. Et donc, d'une certaine manière, ça doit jouer aussi pour limiter l'entrée du virus dans le pays. Et puis, il y a toute l'organisation, disons, articulée à l'État vénézuélien, du chavisme, de toute l'organisation sociale qui, un peu à l'instar du modèle cubain, produit une certaine discipline, finalement, dans l'application des consignes gouvernementales et du contrôle que l'État peut faire sur l'application de ces consignes, qui sont par ailleurs accompagnées par l'aide, comme disait Jeannette Abel pour le Cuba, il en est de même pour le Venezuela, des Chinois et des Cubains d'ailleurs, pour équiper le pays en masques, en tests, etc. Et de ce point de vue-là, eh bien, la quarantaine vénézuélienne fonctionne et le pays est habitué finalement à vivre dans une situation atypique liée aux pénuries, etc. Le système de santé est toujours aussi dégradé, détérioré, la pénurie de médicaments est toujours aussi importante, mais la société est organisée pour vivre dans des conditions comme ça, et ce qui fait que pour l'instant, eh bien, la situation vénézuélienne est beaucoup moins pire que celle de certains pays dont on ne s'attendrait pas à ce qu'elle soit si dégradée, comme l'Équateur, on l'a dit, où aujourd'hui se posent même des questions en Équateur sur le fait de savoir si ce n'est pas le pays le plus touché au monde en termes de proportion de malades. Ou le Brésil, etc. Donc maintenant, est-ce que tout ça va permettre à Nicolas Maduro, c'était votre question, de se maintenir au pouvoir. C'est trop tôt pour le dire, parce qu'encore une fois, il va falloir voir tout ce qui va se passer dans les semaines à venir. La pression est maximale de Washington sur le gouvernement vénézuélien. On l'a vu à travers la tête mise à prix du président vénézuélien et des dirigeants du Chavis. On l'a vu avec le nouveau cadre de transition proposé par le département d'État. L'arrivée d'un renforcement militaire dans les eaux caribéennes au nom de la lutte contre la drogue. Bon, tout ça, ça va jouer à la pression maximale dans les prochaines semaines. Ce qu'on peut dire, en tout cas, pour être bref, c'est que aujourd'hui, Nicolas Maduro gouverne. Il a derrière lui, c'est vérifié, la solidarité des institutions militaires et du gouvernement. Juan Guaido est isolé. Il n'est pas en mesure aujourd'hui, encore moins, de mobiliser la rue, qui ne peut pas être mobilisée du fait de la maladie. Mais lui, son pouvoir est plutôt sur le fait qu'il détient la légitimité octroyée par les États-Unis et une cinquantaine de pays, dont la France, et que c'est vers lui que ces pays sont prêts à donner l'aide internationale au Venezuela et pas par Nicolas Maduro. On l'a vu avec l'épisode du Fonds monétaire international qui a refusé une demande de Maduro d'aide d'urgence. Mais il est assez isolé. Et le reste des oppositions vénézuéliennes aujourd'hui, du fait de la pandémie, ont un peu enterré la hache de guerre contre Maduro pour, disons, faire minimalement front pour éviter l'explosion du pays, qui a fort à faire, y compris avec l'effondrement du prix du pétrole et puis les pénuries de pétrole qu'il connaît aussi aujourd'hui au Venezuela. Donc la situation est compliquée comme toujours au Venezuela, mais aujourd'hui, Nicolas Maduro gouverne et jusqu'à présent, en tout cas, a su contourner le piège que lui posait le corona jusqu'à présent, en tout cas.
Alors, nous n'avons que 20 minutes pour cette émission. Il nous en reste 3, Jeannette Abel, pour parler de deux pays importants du continent, le Mexique et le Brésil. Côté mexicain, une gestion contestée du président López Obrador avec des mesures sanitaires très tardives, une défiance de la population envers son président. Et côté brésilien, un président, Jair Bolsonaro, coronasceptique, qui, en pleine crise du coronavirus, s'est offert le luxe de limoger son ministre de la Santé, Jeannette Abel.
Deux mots pour dire quand même que l'irresponsabilité, en particulier concernant le Brésil, mais on pourrait dire l'Équateur, l'irresponsabilité des politiques et des gouvernements est quelque chose d'absolument terrifiant pour de très nombreux pays d'Amérique latine, dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui. Mais je vais commencer un mot pour le Brésil. Dans les 10 dernières années, le Brésil a supprimé 40 000 à 50 lits dans les hôpitaux. Et c'est un chiffre qui est donné par O Globo, qui est une référence en matière de médias. Et donc, ajouter à cela le fait que le président brésilien Bolsonaro a qualifié l'épidémie au début de grippette, qu'il a trouvé que son ministre de la Santé en faisait trop. Et tout cela avec l'appui notamment des sectes évangéliques. Donc c'est une politique absolument catastrophique. Le cas du Mexique est un peu compliqué, bien que la position, les déclarations de López Obrador au début sur le fait qu'avec une amulette, on pourrait peut-être combattre l'épidémie, n'aient pas été quand même les plus efficaces en la matière. Il a pris des mesures pour certaines utiles, libérer les détenus dont les délits sont mineurs pour éviter la contagion dans les prisons, mais c'est un échec sur le plan de la lutte contre le trafic de drogue, et on a vu une scène absolument ahurissante, la fille du Chapo Guzmán, qui est un narcotrafiquant très connu, emprisonné aujourd'hui aux États-Unis, faire des distributions de nourriture avec le portrait de son père, donc sur les sacs de nourriture ou de biens divers qu'elle pouvait distribuer, et tout cela de manière publique. Il y a eu en 2019 35 000 à peu près homicides au Mexique, donc c'est une situation très complexe et dans laquelle la présidence de López Obrador pour le moment ne semble pas obtenir de très grands succès, en tous les cas, qui risquent dans les semaines qui viennent de s'aggraver. Et on n'a pas le temps de parler de l'Équateur, c'est une véritable catastrophe. On l'a vu sur les écrans, les cadavres dans les rues. Le système de santé en Équateur a explosé littéralement, et même la maire conservatrice de Guayaquil, la ville qui a été la plus touchée, a fait des déclarations effrayantes en disant que c'est comme si une bombe avait explosé sur la ville et ses environs, Bref, un taux de mort per capita en Équateur qui est probablement le plus élevé en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Alors nous reviendrons dans les semaines qui viennent et vous serez réinvité, Christophe Ventura, Jeannette Abel, quand Géopolitique aura retrouvé son format élargi à 40 minutes. Là, nous n'avons que 20 minutes. Merci en tout cas de votre disponibilité. Jeannette Abel, je rappelle que vous êtes politologue et chercheur à l'Institut des hautes études d'Amérique latine et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Juliette Rau. À samedi prochain.